Aujourd'hui, on continue encore sur le royaume de Dieu, mais on est dans la partie de comprendre les nouvelles caractéristiques des habitants du royaume. Comme j'ai dit la semaine passée, quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu as une nouvelle vie qui commence. Les choses anciennes s'est passées, puis là, toute chose est devenue nouvelle. Mais tout ce qui est devenu nouveau, c'est pas visible, c'est pas tout visible à l'œil nu. Comme j'ai dit, on peut continuer à s'habiller comme qu'on était, avoir la même peignure puis le maquillage dans le visage comme d'habitude. On voit pas à l'extérieur vraiment ce qui s'est produit au moment de sa conversion. Tu peux être pareil physiquement le lendemain de ta conversion, mais spirituellement, il s'est passé quelque chose de surnaturel, de puissant, qui vient de la part de Dieu. Il y a des choses qu'on regarde tranquillement. On a vu que quelques-unes de ces nouvelles caractéristiques-là, c'est que premièrement, on a été pardonné, on a reçu le Saint-Esprit, on a été racheté, on est devenu enfant de Dieu. C'est pas n'importe quoi. On l'a tout expliqué la semaine passée. Aujourd'hui, on va voir une autre caractéristique que Dieu nous a donnée en Jésus. Quand que je dis qu'il nous l'a donnée, c'est parce qu'on ne l'avait pas avant de venir à Jésus. Les choses qu'on voit, là, c'est les choses nouvelles que Paul n'a pas expliqué tous ces points-là dans ce verset-là. Il dit que toute chose est devenue nouvelle. Il n'a pas détaillé les points dans ce chapitre-là. Mais dans d'autres enseignements, il y a plein d'autres choses qu'on va chercher, qu'on découvre que Dieu nous a donné en Jésus. Ce qui nous permet de prendre une position devant Dieu puis de sentir qu'on est dans ce rôle-là, dans ce qu'on a reçu. S'il y en a qui pensent que c'est pas pour eux, peut-être vous n'avez pas accepté Jésus. Mais si vous avez accepté Jésus, puis vous êtes engagé en vous repentant, vous êtes né de nouveau, toutes ces choses-là sont vraies pour vous, même si vous ne le saviez pas. Parce que c'est pas nous qui le faisons, ça c'est Dieu qui l'a fait lors de notre conversion. C'est à partir du moment qu'on est de nouveau, qu'on rentre dans le royaume, puis qu'on obtient tous les nouveaux statuts que Dieu nous donne. Puis il n'y a pas de promesse plus grande que tout ce qu'on est en train de regarder là. Ça fait partie, comme Pierre a dit, il nous assure de sa part les plus grandes puis les plus précieuses promesses. C'est ça qu'on saisit par la foi, parce que c'est écrit. La seule qu'on va voir aujourd'hui, ce que Dieu nous a donné, puis que Dieu a donné à chacun qui l'a accepté, c'est la vie éternelle. Dans Jean 3,16, on le sait par cœur, ce passage-là, mais ce passage-là le dit clairement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui. Quiconque, là, ça veut dire n'importe qui. Tous ceux qui le veulent, tous ceux qui se disent, j'aimerais ça, moi, être sauvé, j'aimerais ça avoir ma place dans le ciel, j'aimerais ça aller dans le paradis ou aller dans la vie éternelle, on peut l'appeler comme qu'on veut, ce lieu-là, mais ce lieu-là appartient à Dieu, puis Dieu a déjà tout fait son plan pour que quiconque veut rentrer là puisse l'obtenir gratuitement. Tu as juste besoin de croire en Jésus puis t'engager envers lui. Tu te repens, tu changes de vie, tu veux le suivre. Si tu es dans cette attitude-là, tu lui demandes pardon, puis il va te pardonner, il va te donner le Saint-Esprit, puis toutes les autres positions te sont données gratuitement. C'est des cadeaux qu'il nous donne. Il n'était pas obligé de nous donner la vie éternelle. Puis il n'était pas obligé de payer tout ce qu'il a payé à la croix, toutes ses souffrances, pas rien qu'à la croix. Sa vie entière, c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. C'est toute sa vie qu'il a souffert par toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de problèmes. il a combattu le diable pas juste une fois. On voit ça dans la Bible, une fois qu'il a résisté, mais c'est pas la seule fois qu'il a combattu le diable. Juste nous autres, combien de fois qu'on a combattu le diable? C'est à tous les jours, il faut en combattre le diable. Mais lui, tout, il était tenté en toutes choses. Lui, il a tout connu, les tentations, les épreuves, l'opposition des gens, les souffrances de la vie normale, de travailler, puis des fois peut-être pas avoir de quoi manger. Il a connu ça, lui, courir après l'argent, mais courir après les moyens de payer ses comptes. Il connaît tout ça, il était tentant toutes choses. Tous les sujets qu'on peut... Il a sûrement eu des maladies aussi, puis parce que ça le dit dans Isaïe 53, puis le mot, c'est souffrance, c'est maladie que ça veut dire. Il a souffert, il a eu de la difficulté dans sa vie. Sans compter l'opposition qu'il a eue, puis toute la peine de son ministère, puis jusqu'à être obéissant jusqu'à la mort de la croix, qui était la pire mort qu'il y avait à cette époque-là, en tant qu'humiliation, puis de souffrance. C'est des tortures, fouettées, battues, frappées, arrachées à la barbe, imaginez-les, toutes les souffrances ont tout écrit un peu partout. Ils ont même pris la seule affaire qu'il y avait à lui, son linge. Ils ont partagé ses vêtements, puis ils ont tiré au sort sa tunique. Il n'y avait rien dans la vie, puis ils ont pris le petit peu qu'il y avait. Puis ils l'ont cloué sur le bois, puis jusqu'à mort sans suivre. Puis il est mort rapidement. Son sang était versé parce qu'il était l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Fait que tout cela, ces souffrances-là, nous permet aujourd'hui d'être bénis, d'être heureux, de se réjouir en espérance, de marcher dans la paix, dans la joie, dans la communion avec ce Dieu-là. Tout ça s'est rendu possible à cause du sacrifice de Jésus. Dieu a envoyé son Fils faire ce qui devait être fait pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit que la vie n'arrête pas à notre mort. Il y a beaucoup de personnes que j'ai entendues quand on parle du Seigneur avec les gens. « Ah, moi, quand je vais mourir, ça s'arrête là. » Ils se disent qu'ils s'en vont dans le cimetière, puis ils disent « Je t'éteins, là, je t'enterrerai, puis ça s'arrête là. » Les gens essayent de se convaincre. Il y en a qui espèrent en d'autres choses, mais il y en a qui n'en veulent pas d'autres choses. Ils disent « On meurt, puis on est enterré, puis c'est fini. » Mais je regrette, c'est pas nous autres qui décident, c'est pas de même, ça marche. La Bible dit qu'on va tous ressusciter. La Bible dit que la vie s'arrête pas à notre mort. Elle parle de résurrection après la mort. De ressusciter, c'est revenir à la vie. Alors, revenir dans notre corps, dans un corps, peut-être, même si c'est pas 100% le même, on va sûrement se ressembler, mais on va être dans un corps, puis on va continuer à vivre la vie, mais une vie sans fin, qu'on mourra jamais. On peut lire les paroles de Jésus, qui nous dit que tous vont ressusciter. Dans Jean 5, 28 et 29, ça nous dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Tous ceux qui sont dans les sépulcres, tous ceux qui sont dans les tombeaux, tous ceux qui sont enterrés, tous ceux qui sont morts, vont entendre la voix de Jésus, puis vont ressusciter. Ça veut dire que ça dépend même pas de nous. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de fin de la vie. On voit que Dieu, on va séparer deux idées. Continuer à vivre, c'est une chose, mais d'avoir la vie éternelle, c'est une autre chose. Dans le sens que Jésus, lui, il emploie cette idée-là. Puis là, Jésus continue au verset 29, il dit, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, puis ceux qui ont fait le mal vont ressusciter pour le jugement. » On voit que tout le monde sur la terre va obtenir une continuité de vie dans un corps après la mort. Tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui va rentrer dans la vie éternelle. C'est pas que les gens ne vivent pas, c'est qu'ils seront pas dans la vie éternelle. Il y en a qui vont ressusciter pour être dans la vie éternelle, puis les autres vont ressusciter pour le jugement. Comme la Bible a dit dans l'Apocalypse, le grand trône blanc. Ça dit, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Puis des livres furent ouverts, puis il y a le livre de vie. Puis tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu. Ça, c'est un jugement terrible. Les morts vont être jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Il y a le livre de la Bible qui va être encore là, parce que les paroles de Jésus, c'est la base des enseignements sur lesquels on va être jugé. La parole de Dieu, c'est ça qui va être le livre, qui est un livre éternel qu'on ne peut pas changer, puis il va être là, ouvert, au jugement dernier pour juger les gens qui vont être perdus. Mais il y en a des gens qui vont ressusciter pour la vie. La vie éternelle, qui est un autre endroit, complètement séparé. Puis là, je ne rentre pas dans tous les détails, mais cette résurrection-là ne se fera pas en même temps. La première résurrection, c'est lorsque Jésus va revenir. La seconde résurrection, c'est à la fin des 1000 ans, quand tout va être fini sur la terre. Là, il va y avoir les morts à la fin qui vont être là, ressuscités. Mais en attendant, les âmes qui ne sont pas ressuscitées, ils sont dans un lieu d'attente, puis ils attendent le tour pour ressusciter. Mais il va y avoir comme deux moments séparés pour la résurrection. Puis, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La résurrection, c'est au retour de Jésus, quand il revient pour notre enlèvement. Les morts en Christ vont ressusciter, puis nous, les vivants qui serons restés, on sera tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça va se faire en un instant, en un clin d'œil, on va être changé. Notre corps corruptif va rester pourri là, puis notre corps va être changé, un corps qui ne meurt plus, un corps qui ne souffre plus. Un corps incorruptible, qui ne meurt plus, qui n'a pas de corruption dedans ce corps-là. C'est un corps saint, c'est un corps de santé, de vie, mais le lieu où ce qu'on s'en va, c'est dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Wow! Amen. Merci Seigneur. Amen. On a hâte d'y aller. Il y a des gens qui se disent, « Ouais, mais si tout le monde va vivre après la mort, donc on a tous la vie éternelle. » Hein? Si tout le monde ressuscite, on a tous la vie éternelle, même pas dans le sens biblique du sens du mot vie éternelle. Il faut comprendre, comme la Bible enseigne, qu'il y a deux groupes de personnes sur la terre. Il y a les pardonnés, puis il y a les non-pardonnés. S'il y a juste deux groupes, il n'y a pas trois groupes. Il y en a juste deux. Et ceux qui sont pardonnés par Dieu... Je ne parle pas d'être pardonné par un homme, un pape, une religion, par des rituels. Ça ne pardonne pas, ça. C'est Dieu qu'il faut qu'il te pardonne tes péchés. Puis il a établi son plan d'être pardonné par Jésus. Puis il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Tu n'as pas le choix. Si tu veux être pardonné, il faut que tu ailles à Jésus. C'est lui que Dieu a envoyé comme sauveur du monde pour recevoir son pardon. Fait qu'il y a juste, il y a deux groupes, les pardonnés puis les non-pardonnés, c'est ceux qui ont refusé. Puis les non-pardonnés ne pourront pas aller dans le ciel avec Jésus. Dans Jean 8, 21, Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, puis vous ne pouvez pas venir où je vais. » Il est en train de dire à ceux qu'ils vont mourir dans leur péché, puis ils ne pourront pas aller où ce que Jésus sera. Jésus a dit, moi je m'en vais, puis vous allez me chercher, mais vous allez mourir dans vos péchés, puis vous ne pourrez pas venir où ce que je suis. Fait que quelqu'un qui meurt sans Jésus, il reste dans ses péchés. Puis ses péchés l'empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. Ils ne pourront pas rentrer. C'est fini. C'est pour ça qu'il est important de mourir pardonné, afin d'aller à Jésus, puis de recevoir son pardon, son Saint-Esprit, tu nais de nouveau, tu rentres déjà ici, présentement, tu rentres déjà dans le royaume de Dieu. Tu le vois, le royaume, puis tu t'es rentré dedans en attendant qu'il nous emmène dans son royaume, qui est le royaume céleste, qu'il nous ressuscite. Pour cela, il faut ressusciter, parce que notre corps ne peut pas rentrer là. Et la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Il faut passer par la résurrection pour rentrer là. Pour ceux qui sont pardonnés, ils vont y aller. Jésus nous connaît. Amen. Ça, là, d'être dans nos péchés, il faut comprendre, c'est ce qu'on était avant. On était tous dans nos péchés avant qu'on connaisse Jésus. C'est pour ça qu'on ne peut pas se péter les bretelles puis se penser bon parce qu'on se dit qu'on est sauvé, puis les autres, c'est des païens, ils ne sont pas sauvés. On n'a pas d'affaire à mépriser. On était de même. On était de ceux qui étaient perdus avant de connaître Jésus. Puis si on a répondu à l'appel, on n'a pas de mérite là, on a juste dit oui à ce qui nous était proposé. On n'a pas de gloire là-dedans, puis il faut éviter de se penser supérieur aux autres, puis de mépriser les autres. On est encore là, vivant sur cette terre, dans le but de les attirer à venir à Jésus. C'est ça qui est notre mission. Donc, après la mort, il y a deux endroits distincts, séparés un de l'autre. Les sauvés prendront possession du royaume, ce qui veut dire vivre avec Jésus pour toujours. Dans Matthieu 25, le verset 34, là, dans ces passages-là, c'est une parabole qui explique le retour de Jésus, puis comment Jésus trahit le monde. Puis il dit, « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour, dès la fondation du monde. » Fait qu'il y a une catégorie de personnes, de ceux qui sont bénis de Dieu, parce qu'on a passé par Jésus. On est bénis de Dieu, puis on va prendre possession du royaume. Merci Seigneur. Les autres, ceux qui sont morts dans leur péché, puisqu'ils n'ont pas été à Jésus, seront jetés dans le feu éternel avec le diable. Puis ils seront séparés de Dieu et du ciel éternellement. C'est aussi appelé la seconde mort. C'est là qu'on commence à comprendre le deuxième endroit. C'est la seconde mort. On va ressusciter, mais il y en a qui vont rentrer dans vie, puis il y en a qui, même ressuscités, vont être jetés dans la seconde mort. Il y en a qui ont la vie éternelle, puis il y en a qui vont vivre la mort éternelle. Le mot mort veut dire séparation. Ils vont être séparés de Dieu. Puis de tout ce que Dieu avait, ils vont être séparés pour l'éternité. Ça, on voit ça dans Matthieu 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, ceux qui ne sont pas pardonnés, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » La Bible est catégorique. Il n'y a vraiment que deux positions dans ce monde. Soit elle est pardonnée, soit tu es encore dans tes péchés. Soit tu es déjà rentré dans le royaume de Dieu à cause de Jésus, ou soit que tu es encore dehors présentement, puis tu tournes en rond, puis tu es en train de suivre le diable. Puis s'il ne change pas de direction en se repentant, puis en acceptant Jésus dans leur vie, puis s'engageant à le suivre, là, mais ils vont être... vont mourir dans cette position-là, puis ils vont vivre l'éternité dans le lieu de tourment, préparé pour le diable. C'est quelque chose, ce que je vous dis là. C'est la vérité. C'était aussi prophétisé dans l'Ancien Testament qu'il y aura une continuité de vie pour tous, mais que nous ne serions pas tous au même endroit. Quand je dis une continuité de vie, c'est de continuer à vivre après la mort. Qu'il y aura une résurrection pour tous. C'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est annoncé dans le livre de Daniel, au chapitre 12, verset 2. Ça dit, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » L'opprobre puis la honte, ça veut dire quasiment la même affaire, c'est d'avoir... premièrement, de réaliser qu'ils ont manqué le coup, dans un sens, ils ont manqué leurs occasions, parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, puis ils l'ont rejeté, puis ils vont s'apercevoir, rendu de l'autre bord, que c'est Jésus qui a été établi le chef et le juge, c'est lui qui va, Jésus, qui va les rejeter, puis il va les jeter dans les temps de feu, puis les gens qui vont réaliser qu'ils ont rejeté Jésus. Là, aujourd'hui, c'est bien comique, ils risent de Jésus. Mais qu'on arrive l'autre bord, ils riront plus. Quand ils vont voir le Seigneur, puis ils vont voir sa gloire, le soleil comme son visage comme le soleil dans sa force, ils ne pourront même pas le regarder. Puis ils vont avoir la honte, l'opprobre d'avoir rejeté Dieu. Puis qu'ils vont être rejetés eux-mêmes éternellement parce qu'ils sont morts dans leur péché, ils ne peuvent pas entrer dans la présence du Dieu Saint. Il fallait qu'ils passent par le lavage avant de rentrer, puis c'est en Jésus qu'on l'obtient. Les promesses de Dieu sont sérieuses. Jésus a dit dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Non seulement qu'ils sont dans leur péché, ils n'ont aucunement ce que Dieu a préparé, mais en plus, la colère de Dieu est encore sur eux sans arrêt. Quand ils vont passer devant le tribunal de Dieu, devant le jugement dernier, Dieu va être en colère contre les gens qui ont résisté. C'est comme les paraboles qu'on voit dans la Bible. Il parle d'une parabole qui parle que Dieu avait établi une vigne là, avec des vignerons, puis tout ça, il avait établi des gens-là, puis au temps de la récolte, il envoie ses serviteurs, puis les gens, ils battent ses serviteurs. Après ça, après les avoir battus puis tués, il envoie son fils, puis là, ils ont dit, voici l'héritier, tuons-le et emparons-nous de l'héritage. Ils ont tué Jésus. Pensez-vous que le Père y est de bonne humeur? Dieu est en colère, mais il se retient. Des fois, il en laisse échapper des petites affaires là, pour corriger, pour essayer de faire des effets spéciaux, mais il se retient. Il y a un jour préparé pour la colère de Dieu. Lorsque Jésus reviendra, il vient pour nous enlever, mais il vient aussi pour laisser tomber la colère de Dieu sur l'humanité. C'est ce que ça dit dans d'autres versets. Fait que ceux qui croient au Fils, ils ont la vie éternelle. Ceux qui ne croient pas au Fils ne verront point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur eux. Le fait d'aller à Jésus pour le pardon, nous obtenons la vie éternelle. C'est pas rien. Dans 1 Jean 5, 11 à 13, ça dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » C'est quelque chose, c'est une caractéristique, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Gardez la foi en Jésus. Laissez-vous pas voler. Oups. J'ai laissé ma feuille s'envoler. On va voir une autre caractéristique des gens nés de nouveau.
Là, c'est parce que les mots sont pesants. Hein?
Dans les différents passages, on en a parlé une couple de fois de la prochaine caractéristique, mais je ne l'avais pas énuméré dans les nouvelles caractéristiques qu'on a en Jésus. Comme je vous ai dit tantôt, quand je dis que c'est des nouvelles caractéristiques, c'était des choses qu'on n'avait pas, mais qu'on a obtenu au moment qu'on a accepté Jésus en se repentant, puis qu'on est de nouveau, toutes les caractéristiques de Dieu nous sont données. Celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus héritiers du royaume de Dieu. Quand on parle d'héritier, on parle de quelqu'un qui hérite. T'hérites quoi? T'hérites un héritage. Puis un héritage, c'est dû à quoi? Mais dans le monde d'aujourd'hui, un héritage, t'as ça quand tes parents meurent. Tes parents sont morts, puis là, il a fait une lettre, là, puis il décrit tous les biens qu'il distribue à ses enfants. C'est ça, un héritage. C'est quelque chose que tu obtiens à la mort du propriétaire de ces biens-là, quand il a décidé de t'y donner. Puis il dit quoi qu'il te donne, puis comment tu... Puis des fois, il y a des conditions dans les héritages. Dans les héritages dans le monde. Mais avec Dieu, c'est la même affaire. Quand on est venu à Jésus, on est devenu des héritiers. Dieu, il y avait de quoi nous donner, là. On est en train de regarder déjà plein de choses qu'il nous a données, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'autres choses de plus qu'il va nous donner quand on va rentrer dans la vie éternelle. Certaines des choses, parce que je peux pas tout faire dans une shot, tout ce que Dieu dit dans la Bible, sinon... Le premier point qu'on va regarder, c'est dans cette idée-là, dans Matthieu 25, le verset 34, ça dit, « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, » ça je l'ai lu tantôt, « prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Là, je vous le dis comme étant comme un bien, un acquis que Dieu va nous donner. Quand tu prends possession d'un royaume, c'est que tu es sûr d'avoir quelque part un petit coin de terrain à toi dans ce royaume-là, une place pour rester. On va avoir de quoi où ce que Dieu nous prépare, puis je pense qu'il va y avoir différentes affaires, différentes pour chaque personne. Chacun va obtenir de Dieu dans son héritage des choses différentes. Puis il y a des conditions là-dedans pour obtenir ce qu'on va obtenir. Il va y avoir des différences, comme qu'on le voit dans une des paraboles, il avait donné 5 talents à un, 2 à l'autre, 1 à l'autre. Celui qui n'avait 5 était rendu à 10, l'autre n'avait 2, il était rendu à 4, celui qui n'avait 1, il l'a enterré. À la fin, quand le maître est arrivé, celui qui n'avait 10, il a reçu le gouvernement de 10 villes. L'autre, il n'était rendu à 4, il a reçu le gouvernement de 4 villes. Puis l'autre, il n'avait pas, il n'avait rien parce qu'il l'avait enterré, ça lui est enlevé. C'était donné à celui qui n'avait 10, puis il était rendu à 11. Puis Dieu va donner à ceux qui sont dans l'abondance, je suis encore plus dans l'abondance. Là, on parle de choses à obtenir après notre résurrection. On ne parle pas juste de la vie éternelle. On parle de ce qu'on va recevoir pendant notre vie éternelle. Des trésors que Dieu va nous donner. Toutes les bénédictions de Dieu nous sont donnés en Jésus. Nous avons reçu un acompte pour cela. C'est un acompte. On l'a déjà, un acompte. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est une garantie de notre héritage. Quand tu sais que tu as le Saint-Esprit, puis tu le sens, tu le vis, tu vis des affaires avec Dieu, là. Tu sais que tu es sauvé. Tu sais qu'il y a un héritage qui s'en vient, parce que ce qu'il t'a donné là, c'est un acompte. C'est en attendant qu'il dit, tiens, je te donne ça, c'est juste pour te dire que continue à rester là-dedans, là, parce que ça s'en vient, ton affaire. Le plus s'en vient. Après. En Éphésiens 1, 13 et 14, ça nous dit, « En Jésus, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, un sceau, un étampe, ça, un sceau, lequel est un gage de notre héritage. C'est un gage, c'est un acompte, en attendant. Parce qu'on a reçu du Saint-Esprit, là, c'est en attendant de ce qu'on va recevoir après. C'est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. On en a parlé de la rédemption la semaine passée, le rachat que Dieu a fait pour qu'on lui appartienne. Dieu s'est acquis des personnes, ils sont maintenant à lui, il nous a rachetés en payant le prix de notre rançon, puis maintenant on lui appartient. Dieu s'est acquis des gens, puis on lui appartient, puis ces gens-là, il nous a donné un acompte, c'est le Saint-Esprit, en attendant ce qui s'en vient après. Ça, c'est pour servir à la louange de sa gloire. Fait qu'on peut dire un « Alléluia » ou un « Merci Seigneur » qu'on fasse partie de son héritage, puis ces promesses-là, c'est à nous. « Merci Seigneur, y a-tu de quoi de plus grand que tout cela? » Même si vous auriez eu une augmentation de salaire sur votre paye à votre job, le double de votre salaire, c'est rien comparé à ce que Dieu nous a donné puis ce qu'on va avoir dans la suite. La Bible parle de différentes couronnes qui vont être données aux vainqueurs. On va voir trois couronnes. La première couronne, c'est la couronne de vie. Quand on parle de couronne, c'est pour couronner des vainqueurs. Quand il y a des Olympiques, là il y a un stade là, avec trois médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Là. C'est des couronnes. Ils donnent aux vainqueurs la médaille d'or. C'est une couronne. Mais même qu'on arrive l'autre bord, on va avoir des couronnes différentes. Tu peux en avoir plus qu'une, mais il y en a trois là de suite dans le Nouveau Testament, mais il va sûrement en avoir d'autres, puis en plus les paroles encourageantes que Dieu va dire, parce que quand il va nous accueillir, il va nous dire « Viens, bon et fidèle serviteur », ça va faire du bien entendre ça. On vit tout le temps dans crainte, puis on a de la misère, tout ça. On a besoin de se faire encourager comme cela, mais Dieu va nous le dire, parce que c'est écrit. Mais une des couronnes, c'est la couronne de vie, dans Jacques 1,12. Ça dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Êtes-vous des gens qui aiment le Seigneur? Mais il dit qu'il a promis ça à ceux qui l'aiment. Mais il y a une condition. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Ce qu'on vit ici, les épreuves, les souffrances, les efforts, les difficultés, les problèmes, tout ce que tu peux imaginer qu'on vit qui nous rend la vie difficile. Quand je parle de vie, je parle de la vie chrétienne. C'est pas encore, mettons, tu joues à un jeu, puis tu as de la misère à jouer à ton jeu, à gagner. Là, tu penses que tu as de la difficulté de la vie. Ça compte pas, ça. On parle des difficultés de ta vie chrétienne.
Un coup de marteau,
puis même en cause, c'est à cause que tu faisais de quoi qui n'était pas pour Dieu. Mais si tu le fais pour Dieu, quelque chose pour Dieu, puis tu as de la difficulté, c'est des épreuves. Le diable, là... Michel en a parlé un peu tantôt. Continuellement, il essaie de nous enfarger par des paroles, des idées dans notre tête. On entend quelque chose de quelqu'un, puis là, on est tout reviré à l'envers, puis on est prêt à tout lâcher. C'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de gagner la victoire de l'épreuve si on tombe dans les épreuves. Dieu veut nous amener à un niveau où on va être capable de passer à travers les épreuves, puis rester debout après avoir tout surmonté. Surtout, comme j'ai dit tantôt, il va nous arriver des choses plus pires que ça qu'on voit dans l'Apocalypse. Les sauts, les trompettes, ça sera pas drôle tout à l'heure. Des fléaux, même que dans Matthieu 24, puis dans Luc, il en parle aussi, dans Marc aussi, les souffrances du monde qui vont vivre pendant le temps avant le retour de Jésus. Ça sera pas drôle. Ça va être des épreuves. Puis il faut rester debout. Marcher dans la foi. Continuer à servir le Seigneur. Et dit, heureux celui qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Quand on va arriver au bord, comme je vous disais, les vainqueurs vont avoir des belles couronnes. On va être couronnés. Puis si aujourd'hui, ici, quand quelqu'un fait un Olympique, là, puis tout le monde le voit à TV, il voit le gars, puis tout le monde applaudit. Bon, il a sa gloire. Nous, ce n'est pas les humains qui vont applaudir pour nous. C'est Dieu qui va nous bénir, qui va nous récompenser. Puis les anges, les milliards d'anges qui vont célébrer, vont fêter, ils vont... On est rendu, les saints, les élus sont entrés. Oh, quand les saints y entreront, ô Seigneur, que je sois du nombre, quand les saints y entreront. Une deuxième couronne qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est une couronne de justice. Dans 2 Timothée 4,8, Paul, il dit qu'il avait supporté les fardeaux, puis les combats, puis tout ça, puis il remportait les victoires dans sa vie. Puis ça dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, Jésus lui-même, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Êtes-vous de ceux qui ont hâte que Jésus revienne? Vous aimez son avènement? Ben, il dit, il y a une couronne. Persévérez, attendez patiemment son retour. Parce qu'on aime, on aime le Seigneur, puis on a hâte qu'il revienne nous chercher. Puis si tu persévères dans cela, tu vas faire partie des enlevés. Merci Seigneur. Ça, il dit, tu vas recevoir une couronne de justice. Un autre point qui nous parle d'une couronne de gloire. Ça parle de aux ouvriers quand ils travaillent dans l'œuvre, puis qui sont fidèles, puis tout ça. Si tu es un ouvrier du Seigneur, le Seigneur, il va te bénir avec une couronne de gloire. Ça dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Wow! Nous autres, on ne connaît pas ça parce qu'on n'a jamais participé à des Olympiades à quelque part pour se sentir gagnant dans quelque chose. Le petit feeling que ça peut donner de se ramasser sur le podium, puis peut-être être le premier de la gang. Mais la Bible nous en parle. Puis si elle nous dit ça, c'est pour nous exciter, pour nous donner une vision. Même Jésus, là, quand il était dans ses souffrances, dans Hébreu, ça dit que le Seigneur regardait la joie qui lui était réservée. Il a accepté de vivre ça ici en pensant à ce qui s'en vient après. Ça devrait être quelque chose qui nous motive. Il y a un trésor qui m'attend dans les cieux. Là, on parle des couronnes, mais on va parler aussi du trésor. Dans notre héritage, nous obtiendrons aussi des récompenses pour notre travail pour Dieu. Dans Matthieu 6, le verset 19 et 20, ça dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » On parle de trésors, là. Où la teigne et la rouille détruisent pour ce que les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, puis où ce que les voleurs ne percent ni ne dérobent. Il y a des, je ne sais pas si vous le saviez, mais là je vous le dis, mais qu'on arrive l'autre bord, on va recevoir des trésors éternels. Des trésors qui rouillent pas. Puis en plus, l'autre bord, il n'y a pas de valeur. Ce que Dieu va te donner comme trésor, mais tu arrives l'autre bord, tu vas le garder, ça va être tatoué pour l'éternité. Mais là-dedans, il y a encore une condition. Amasse-toi-en, qu'il dit. Amasse-toi pas celle de la terre, amasse-toi les trésors du ciel. On est présentement, quand tu es déjà sauvé, je parle, tu es en train déjà de te ramasser des trésors pour l'autre bord. Reste assis à une chaise toute ta vie, là, tu vas arriver l'autre bord à zéro. Tu vas être sur le bien-être social rendu l'autre bord. Puis c'est pas des farces. Il y en a qui vont être sauvés comme au travers du feu, que la Bible dit. Ils vont toutes par deux récompenses. Parce qu'ils n'ont pas travaillé pour les choses d'en haut. Ils ont travaillé que pour les celles de la terre. Le temps que tu passes pour servir le Seigneur, tu es en train de te ramasser un trésor dans les cieux. Il y a une autre place, il dit, « Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu vas avoir un trésor dans le ciel. » On veut-tu un trésor ou on veut être sur le bien-être, l'autre bord? Ça fait partie de l'héritage qu'il veut nous donner. Et tiens, on emmène de temps en temps. C'est ça qui nous attend. Servir le Seigneur au maximum. Essayez au moins de servir à tous les jours, faites de quoi, pour l'œuvre de Dieu, pour vous ramasser quelque chose, pour arriver l'autre bord. Qu'est-ce que tu as fait pendant ma vie? Ah, ben moi, on ne saura pas quoi dire. Tout, il dit, j'ai mis des œuvres devant vous afin que vous les pratiquiez. Elles sont toutes déjà préparées, il y en a pour moi, il y en a pour chacun de vous. Mais il faut être là, en train de servir. C'est là que tu t'en ramasses. Ton héritage va être plus grand ou elle va être quasiment rien. Ça dépend de ce que tu as fait. Puis si vous dites, « Ah, ben moi, je ne le vois pas », demandez à Dieu, demandez à Jésus, il va vous le montrer ce qu'il veut que vous fassiez.
Dieu, il est considéré avec les matériaux qu'on veut avoir.
C'est ça. Dans le ciel, il est en train de nous bâtir une belle bâtisse, là. mais il utilise les matériaux qu'on lui envoie. Si on l'a envoyé juste pour avoir la grosseur d'une niche, on va avoir juste une niche. Puis si on a travaillé et servi le Seigneur, on va être dans l'abondance éternellement. Notre héritage est un héritage éternel qui ne peut se détruire. Il demeurera éternellement, cet héritage-là. Ça ne s'usera pas. Dans le verset, dans 1 Pierre 1, 4, ça nous dit, c'est pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux.
Amen.
Alléluia. L'héritage est pour les vainqueurs. Les autres seront perdus à tout jamais. Puis il y en a qui vont avoir un peu de récompense. Mais entre le tri, là, entre ceux qui vont avoir de quoi, puis ceux qui n'auront pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a juste deux groupes de personnes. Il y en a qui vont avoir l'autre bord dans la vie éternelle leur place, puis il y en a d'autres que non. Apocalypse 21, 7, 8, ça dit, « Celui qui vaincra héritera ces choses. » Il y a une victoire à aller chercher. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher en cours de route. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, puis il sera mon fils. Puis là, il nomme un paquet de catégories de gens. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Soit tu es dans la vie éternelle, ou soit tu es dans la seconde mort. On ne veut pas aller là, ça c'est garanti. Persévérons en Jésus, obéissons au Seigneur. Les promesses sont pour ceux qui sont prêts à aller jusqu'à la mort pour Jésus et son royaume. Dans Romains 8, 17, ça dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Si tu es un enfant de Dieu, on l'a vu, quand tu reçois Jésus, ça donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais si tu es un enfant, tu es aussi un héritier. Tu es enfant de Dieu, donc tu es un prince, puis tu as un héritage du roi qui nous attend. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si, là, il y a encore une condition. Il parle à des chrétiens. Toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il y a une persévérance dans la foi à aller jusqu'au bout, à aimer Jésus, à rester accroché à lui, à ne pas lâcher, à se soumettre, à le servir. Il dit, marche dans ce chemin-là, tu souffres avec Jésus, tu vas être glorifié avec Jésus. Un dernier verset. Pour ceux qui garderont les œuvres de Dieu jusqu'à la fin, ben, nous recevrons la royauté avec Dieu comme héritage. Dans Apocalypse 2, verset 26, ça dit, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Dans notre héritage, Dieu veut faire de nous des rois et des seigneurs pour régner dans la nouvelle place que Dieu va avoir faite pour nous. Voulons-nous participer à tout ce que Dieu a préparé? Voulons-nous devenir riches spirituellement parlant? Il y a un prix à payer. Il faut être prêt à s'engager, puis à ne pas lâcher, puis à s'en ramasser le plus. C'est ça, comme j'ai dit tantôt, vous ne savez pas quoi? Demandez au Seigneur, il va vous montrer. Mais les deux grandes lignes, c'est l'édification des chrétiens dans l'Église, puis l'autre ligne, c'est travailler à l'évangélisation pour ramasser le plus de personnes possibles qui puissent goûter aux promesses de Dieu. Amen. Enrichis ton Église, Seigneur. Rouvre les portes qu'il y ait encore plus en plus d'œuvres qui soient accomplies dans ce monde, puis qu'on puisse vraiment glorifier ton nom avec tout cela. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton Fils.